Bienvenidos a este informativo de Radio
France. Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplin.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde. Comme tous les vendredis soirs, nous revenons maintenant sur les temps forts de l'actualité de la semaine avec le regard des rédactions de Radio France Internationale. Un regard différent, parfois décalé, qui fait la richesse de votre radio. Ce soir, dans ce studio pour la rédaction en anglais, Laura Martel.
Bonsoir.
En anglais.
Hello.
Oui, c'est que vous êtes nouvelle dans cette équipe. C'est la règle.
Indeed.
Voilà. Aziz Farr de la rédaction en persan.
Droud, salam.
Voilà. Et Miguel Martins, responsable de la rédaction en portugais.
Bonnoite.
Bonsoir à vous tous. Alors, cette semaine a été marquée par la visite officielle du président français dans trois pays africains, l'occasion du sommet Afrique-Europe, l'occasion pour Emmanuel Macron de déclarer que la France n'a plus de politique africaine.
Je suis d'une génération où on ne vient pas dire à l'Afrique ce qu'elle doit faire, quelles sont les règles de l'état de droit, mais où partout on encouragera celles et ceux qui en Afrique veulent prendre leurs responsabilités.
Voilà, c'était donc Emmanuel Macron l'autre jour au Burkina Faso. Des propos qui ont bien sûr été largement commentés, Miguel Martins.
En effet, donc Paris, les réseaux opaques du passé tissés avec le continent, la France-Afrique, ça fait depuis Nicolas Sarkozy au moins que tous les présidents français tentent de se démarquer de cette politique-là. Emmanuel Macron tenait donc à en faire de même. Il l'a dit d'emblée à Ouagadougou, Burkina Faso, la première étape donc de ce périple africain. Est-ce qu'il a convaincu ? Je vous propose d'écouter la réaction d'un sociologue capverdien installé à Paris.
Não creio ser possível, porque hoje, perante a mundialização, somos todos responsáveis.
Quelle est l'analyse de cet homme qui s'appelle Luis Silva?
Voilà, il nous faisait part du fait qu'en 2017, à l'heure de la globalisation, nous sommes tous responsables des événements qui surviennent à travers le monde. Donc on ne peut pas prétendre ne pas avoir une politique envers l'Afrique, en l'occurrence. D'autant plus que dans certaines zones de conflit, dans le Sahel notamment, Paris a dû intervenir sur le continent. N'oublions pas non plus les questions du climat. Où la France, autour de la COP25 et de l'accord sur le climat, a dû fédérer des appuis en Afrique.
Le président français disait qu'il appartenait à une génération, donc une génération jeune, bien évidemment,
c'est ce qu'il souhaite. Moins de 40 ans.
Il peut revendiquer une approche dépoussiérée de la logique coloniale, période qu'il n'a donc pas connue.
C'est l'argument qui nous rappelait donc ce sociologue capverdien. Je vous propose de le réécouter.
A France-Afrique a une connotation très triste, que quasi le néocolonialisme confesse.
Donc lui, Silva nous disait que Macron a voulu dire par là qu'il n'est pas né pendant cette période coloniale. En effet, il n'y a donc nullement participé, ce qui confère à l'actuel locataire du palais de l'Élysée un regard différent. Ça ne veut pas dire pour autant que les relations de Paris avec l'Afrique vont cesser. Elles devraient désormais se concentrer sur d'autres volets. La France-Afrique n'est plus. Macron ferait un pari sur l'éducation en Afrique.
Le chef de l'État français qui va bientôt avoir 40 ans, et qui a fait référence à l'immigration, Miguel, avec en toile de fond les dénonciations d'esclavage en Libye. On en a beaucoup parlé ces derniers jours.
Ah oui, en effet, sachant qu'aujourd'hui, on ne fait plus venir des gens illettrés en Europe, comme dans les années 60 et 70. Désormais, on fait venir des personnes hautement qualifiées. Pour cet analyste des relations entre la France et l'Afrique, la globalisation a plutôt profité aux Chinois qu'aux autres, sans que l'on parle pour autant, d'au moins directement, de la nouvelle colonisation de Pékin sur le continent.
Et d'autant plus que le nombre de pays africains sont indépendants depuis plus d'un demi-siècle maintenant et que certains des conflits actuels sont avant tout nés sur le continent.
Voilà ce qui rappelle encore Luis Silva, on l'écoute.
Os países africanos é que têm de fazer as reformas necessárias para criar.
Donc ce sociologue capverdien convient que Macron lui-même a reconnu le rôle nuisible de la colonisation européenne en Afrique, mais il faut quand même aller de l'avant. Ce qui se passe en Libye avec les esclaves subsahariens ou en République démocratique du Congo où l'on attend toujours des élections. Pour cet interlocuteur, il s'agit là de problèmes propres aux Africains. La faute reviendrait aux Africains. Pour la genèse des problèmes, évidemment que là aussi, il faut faudrait nuancer. Nombre de sources africaines rappellent que c'est la France de Nicolas Sarkozy qui avait été à l'origine de l'intervention en Libye, qui a fini par mettre un terme au régime de l'ancien président Muammar Kadhafi.
Alors je me tourne vers vous, Laura Martel, nouvelle venue, je lisais dans Accent du Monde, bienvenue.
Merci.
À la rédaction en anglais, vous vous êtes particulièrement intéressée à la troisième étape de ce voyage africain d'Emmanuel Macron, à savoir sa visite hier au Ghana, particulièrement en ce qui concerne les relations entre la France et ce pays, le Ghana.
Oui, alors des liens essentiellement économiques, puisque au niveau politique, il faut rappeler qu'Emmanuel Macron était quand même le premier président français à se rendre au Ghana depuis l'indépendance du pays. Donc, pour parler économie, sachez qu'il y a quelques pas qui ont été faits. Il y a une chambre de commerce France-Ghana, la banque Société Générale a racheté une banque sur place en 2004. Mais c'est surtout à partir de l'entrée en fait du Ghana dans la francophonie que les liens se sont resserrés entre les deux pays. C'est en tout cas ce qu'a dit Kobi Annan, un expert ghanéen au Singhai Advisory. C'est un cabinet d'expertise sur l'économie en Afrique de l'Ouest.
It was 2006 that Ghana initially became a member of the francophonie. And ever since then, the
bond... Que vous a-t-il dit?
Il nous explique que c'est en 2006 donc que le Ghana a intégré la francophonie. Il souligne que ce sont principalement les grands groupes qui sont déjà présents dans les anciennes colonies françaises d'Afrique de l'Ouest, qui sont aussi au Ghana. On l'entend par exemple citer CFAO, qui fait en fait de la logistique, de la pharmaceutique, du routier ou encore du bâtiment. Total, bien sûr, le géant pétrolier, d'autant que les réserves pétrolières ghanéennes attisent de plus en plus les convoitises. Bolloré aussi, bien sûr, présent dans une quarantaine de pays africains et qui contrôle la manutention, seul ou en partenariat avec d'autres sociétés, d'une quinzaine de ports en Afrique, d'une vingtaine de ports secs, et qui fait également aussi parfois dans le ferroviaire et le routier. Et donc, à noter, nous dit cette analyse, que concernant les investissements de la France en Afrique de l'Ouest, le Ghana, le saviez-vous, est le 7e pays à recevoir le plus d'investissements français, ce qui est considérable, souligne Kobi Annan, notre expert, étant donné bien sûr les liens historiques de la France avec les autres pays de la région.
Pour ce qui est de la politique maintenant, Laura Martel, c'est paradoxalement plus le Togo que le Ghana qui était au centre des discussions.
Oui, parce que le Ghana a été mandaté par ses homologues régionaux pour faire de la médiation au Togo. Il a débuté il y a quelques semaines, une semaine de bons offices pour pousser un dialogue, alors que, vous le savez, les manifestations se multiplient pour demander le départ de Fornia Simbé. Mais les lignes donc semblent bouger sous l'égide des Ghanéens. Le ministre ghanéen de la Sécurité est attendu la semaine prochaine pour mettre en place justement le comité technique de ce dialogue. Alors, ça n'a pas fait non plus l'objet de grandes discussions entre les deux présidents, puisque Emmanuel Macron n'est resté que quelques heures sur place. Quelques heures quand même qui lui ont permis d'afficher une bonne entente avec le président du Ghana, Nana Akufo-Addo. D'autant plus finalement que les deux hommes partagent le bilinguisme. Macron parle anglais et le président ghanéen parle français. Et la promotion de l'apprentissage du français dans les écoles ghanéennes était un sujet qu'ils ont voulu promouvoir ensemble justement.
Voilà ce qu'on pouvait dire dans Accent du Monde sur cette visite officielle longue dans trois pays cette semaine d'Emmanuel Macron. Vous écoutez Accent du Monde sur Radio France Internationale.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Le sommet Union africaine, Union européenne s'est donc tenu jusqu'à hier en Afrique, en Côte d'Ivoire. Michael Martins, il y a surtout été question du chaos libyen et de ces images des marchés d'esclaves de migrants subsahariens dans ce pays qui est donc situé au nord du continent.
Indéniablement, le choc des images de la chaîne américaine CNN, ces images qui ont donc fait le tour du monde et se sont donc invitées à cette conférence. Je vous propose d'écouter certaines réactions, à commencer par le ministre des Affaires étrangères d'Angola.
And that I will protect and uphold.
And that I will protect and uphold.
The sovereignty.
Non, ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères d'Angola. Je vous propose de l'écouter tout de suite.
Naturellement, qu'Angola continue à préoccuper de les conflits en Afrique. Está muito preocupado.
Que dit-il, Miguel?
Donc Manuel Augusto, le ministre angolais, disait que le sujet était très inquiétant, mais il fallait aller au-delà de la condamnation. Il demandait ainsi des mesures rapides de l'ONU et de la communauté internationale pour mettre un terme à la situation d'abus de migrants africains en Libye. Il faut identifier janvier, arrêter les responsables de ce trafic d'esclaves. Il rajoute que le chaos libyen se doit à des interventions européennes qui auraient détruit le pays. La fin du régime de Kadhafi a précipité les choses dans un contexte de trafic de personnes,
disait-il. Alors, nombre de pays africains ont déjà commencé à rapatrier leurs ressortissants depuis la Libye. Hein.
Oui, en effet, c'est le cas par exemple de la Guinée-Bissau. Le Premier ministre qui s'est entretenu à Abidjan avec le président de transition libyen nous a dit ce qu'il en est actuellement par rapport à ses ressortissants en Libye.
Il fallait qu'au président de transition de Libye, elle me dise qu'il y a moins de zéro de jumelage.
Quelle est la teneur des propos du Premier ministre de Guinée-Bissau?
Donc, Oumarou Sissoko Embalo nous faisait état du retour de quelques ressortissants depuis la Libye. Environ 20 personnes sont revenues au pays. Une mission s'est rendue en Libye. Un nouvel envoyé de Bissau vient d'arriver dans ce pays nord-africain où le chaos fait qu'on ne peut pas aller partout. Cependant, il se veut optimiste sur le fait qu'il ne resterait que peu de citoyens de son pays, sachant la difficulté évidemment d'avoir des chiffres réels sur un pays plongé dans l'insécurité depuis bien des années.
Et là, on ne parle que de 20 personnes. Donc il a beaucoup été question de la situation migratoire, des flux, des moyens de l'endiguer. Au final, quel bilan peut-on faire de ce sommet euro-africain?
C'est justement la question que nous avons posée à Carlos Lopez, qui est économiste bissau-guinéen de renommée internationale. On l'écoute.
Les décisions sur la Libye sont extrêmement positives parce que mudam un peu le débat sur le trafic humain. Era un moment...
Donc celui qui est actuellement un conseiller du président du Rwanda pour la réforme de l'Union africaine parle d'une action forte à un moment crucial sur le trafic de personnes en Libye. Toutefois, il se disait déçu par rapport au fait que l'on n'y a que très peu parlé commerce. Or, le fait que les 28 aient négocié des accords de partenariat économique avec des pays africains, cela a engendré de nombreuses contraintes pour la mise en place d'une zone africaine de libre-échange. L'Europe est toujours le premier partenaire du continent noir. 38% du commerce, c'est dire une importance passée sous silence. Par le passé, on parlait trop de questions de paix et sécurité. Là, on n'en a quasiment pas parlé. Il souligne toutefois un langage plus respectueux que par le passé entre les habitants des deux rives de la Méditerranée. Donc un changement positif dans ces grandes messes entre Africains et Européens.
Encore une question, Miguel. L'ONU, que va-t-elle faire pour suivre ces dossiers qui bouleversent l'agenda des dossiers des Européens et des Africains? Puisqu'une fois de plus, il n'était pas prévu qu'on en parle autant.
Mais le secrétaire général était présent et voici sa réponse. Donc Antonio Guterres, ancien Premier ministre portugais, secrétaire général de l'ONU, dit qu'il faut davantage de possibilités d'immigration légale et par ailleurs plus de coopération internationale pour combattre les trafiquants. Les services de renseignement doivent coopérer plus étroitement. Ceux qui finissent par être jugés sont souvent au bas de l'échelle. On n'a pas encore vu des barons du trafic d'êtres humains en prison. Le HCR, l'OIM, agence onusienne pour les réfugiés et l'immigration, sont prêtes à encadrer le retour des ressortissants subsahariens depuis la Libye. L'agence du crime et le Haut Commissariat des droits de l'homme devraient œuvrer également pour aider ce pays à traduire en justice ces bandits, je cite, par rapport à ce que Guterres appelle des violations intolérables des droits de l'homme.
Miguel Martins de la rédaction lusophone de RFI. C'était mardi dernier, au Kenya, la prestation de serment du président au terme de plus de 4 mois de rebondissements politiques.
And that I will protect and uphold.
And that I will protect and uphold.
The sovereignty.
The sovereignty.
La rédaction en anglais a suivi de près cette semaine l'épilogue de ce feuilleton électoral inédit, l'élection donc présidentielle au Kenya. Un des scrutins qui aura pris le plus de temps dans l'histoire de l'Afrique, selon les mots d'Uhuru Kenyatta, qui a donc finalement été investi pour un deuxième mandat. Alors pour bien comprendre ce qui s'est passé, Laura Martel, il faut revenir à ce qui a eu lieu début août.
Oui, août est un premier scrutin, et la commission électorale qui annonce la victoire d'Uhuru Kenyatta face à Raila Odinga. 3 semaines plus tard, c'est le coup de théâtre avec une décision inédite, décision historique de la Cour suprême kenyane qui saisit par l'opposition, invalide le scrutin en mettant en avant des irrégularités. La décision a un retentissement mondial, car ce type d'annulation, bien sûr, dans l'histoire contemporaine, se compte sur les doigts d'une main et surtout retentissement colonialisme en Afrique, bien sûr, où de nombreux opposants à des chefs d'État durablement installés, comme chez les voisins ougandais, par exemple, espèrent alors que la décision fera évidemment des émules. Sauf que la suite, finalement, eh bien, est moins reluisante. Des candidats qui font de la surenchère d'insultes, des violences, même si pas comparables à celles de 2007. Et Raila Odinga, qui décide finalement de boycotter la nouvelle élection. Et Uhuru Kenyatta, donc, qui est finalement élu avec 98% des voix et qui a donc enfin prêté serment mardi.
I will be president of all. And I will devote my time and energy to build bridges, to unite and bring prosperity to all Kenyans.
Voilà le président Uhuru Kenyatta qui se veut rassembleur. Il dit qu'il sera le président de tous les Kenyans et qu'il va construire des ponts entre les populations divisées.
Et oui, s'il dit cela, c'est parce que les divisions dans le pays sont extrêmement importantes et exacerbées par ce long processus.
Oui, des divisions sociales, régionales, communautaires. Et dans le focus qu'a fait Daniel Final sur ce sujet, eh bien, on rappelle que la principale coalition d'opposition NASA qui refuse de reconnaître Uhuru Kenyatta comme président et qui estime qu'Odinga est le nouveau chef de l'État, eh bien, compte bien bloquer le processus politique, par exemple en tentant de s'opposer aux nominations de la future équipe gouvernementale. Alors, question, Kenyatta peut-il vraiment rassembler et comment? Eh bien, nous avons posé cette question donc à Rebecca Rumpel, une spécialiste du Kenya au sein du think tank Chatham House.
There are things he can do. He promised in his inauguration speech to focus, for example, on universal free healthcare.
Quelle est son analyse?
Ouais, elle nous dit que Kenyatta peut lancer des initiatives transversales pour tenter de rassembler. Lorsqu'il a parlé, par exemple, de couverture médicale gratuite pour tous, une manière de dire que tout le monde est traité sur un pied d'égalité. Mais elle est finalement plutôt sceptique, cette analyse. Cette analyste, elle pense que la priorité de Kenyatta sera plutôt d'enrayer les difficultés économiques qui ont été aggravées par ces mois d'incertitude, et que sur le plan politique, aucun rapprochement avec Raila Odinga pour tenter d'apaiser les esprits n'est pour l'instant à l'ordre du jour. Et en plus, selon donc Rebecca Rumpel, eh bien Kenyatta risque de vite se projeter sur l'élection de 2022 et donc de cultiver son électorat centré sur sa communauté. Des analyses, bien sûr, que vous pourrez retrouver sur notre site en anglais et sur les réseaux sociaux de RFI English.
Laurent Martel, de la rédaction anglophone de RFI, justement, sachant que donc le Kenya a un nouveau président officiellement après des semaines et des semaines de suspense ou de faux suspense. Venons-en à l'Afghanistan où la situation est toujours très difficile. Avant-hier, il y a eu la pendaison de 5 membres d'un groupe criminel spécialisé dans les enlèvements crapuleux. C'est l'un des fléaux du pays. Les exécutions ont été conduites à Kaboul, dans la principale prison sur ordre du président Ashraf Ghani. Et par ailleurs, le gouverneur de Mazar-i-Sharif n'a pas pu se rendre à Kandahar, lui, pour participer à un grand rassemblement appelé Loya Jirga. Aziz Fard, de quoi s'agit-il?
Il s'agit de prévenir la crise politique future. Vous savez que l'Afghanistan a un gouvernement qui n'a pas été élu. C'est un gouvernement qui est arrivé suite à un arrangement entre les deux candidats. Et donc, bientôt, nous avons de nouveau des élections en perspective et il faut réussir ces élections. C'est pour ça que des personnalités de Kandahar avaient invité d'autres personnalités de tout le pays à cette réunion, dont aussi Monsieur Noor, gouverneur de Mazar-i-Sharif, qui n'a pas pu s'y rendre. Et donc, commençons par écouter lui-même ce qu'il dit à propos de ce mésaventure.
Alors, il faut prêter l'oreille, mais dites-nous en substance ce qu'il disait.
C'est dans l'aéroport de Mazar-i-Sharif, à la sortie de l'avion, qu'il dit qu'ils ont attendu longtemps. Ils ont attendu plus longtemps que le temps nécessaire pour faire le trajet de Mazar jusqu'à Kandahar. Et finalement, ils ont reçu la réponse négative de la part du gouvernement. À ce moment-là, donc, Monsieur Noor disait que c'est le gouvernement qui les a empêchés de faire ce voyage.
Donc ça, c'est la raison officielle. Officiellement, il n'a pas pu se rendre à cette grande réunion pour des raisons de sécurité.
Voilà, sauf que plus tard, le gouvernement afghan précise qu'effectivement, il s'agit de raisons de sécurité, mais indépendant de la volonté du gouvernement, c'est plutôt les forces étrangères qui sont présentes en Afghanistan qui ont le monopole de l'espace aérien pendant la nuit. Et donc, c'est pour ça que, en fait, s'il n'a pas pu faire le voyage, c'est pas la faute à la présidence, mais aux forces étrangères.
Et est-ce que c'est la vraie raison?
En fait, on se demande, parce que il faut essayer de comprendre, la vraie raison pourrait être la position et le risque que court Ashraf Ghani justement dans les prochains temps, parce que cette réunion appelée Loyal Jirga ou tout simplement Jirga, l'initiative ne vient pas du gouvernement, l'initiative vient de personnalités indépendantes, et si cette réunion a un succès, ce sera pas tellement bien pour le président.
Et on ne sait toujours pas si cette réunion aura lieu en présence du gouverneur Mazari Sharif. Et vous suivez bien évidemment cela de très près à la rédaction en persan de Radio France Internationale. Merci à vous tous pour cet éclairage sur ce qui fait l'actualité dans le monde. C'était Accent du Monde, en quelques instants, l'essentiel de l'actualité.